Ce que femme veut, business,
société, ambition,
relations,
l'émission qui vous révèle ce que les femmes veulent.
Portrait, coup de cœur et coup de gueule,
ce que femme veut, tous les mardis à 11h sur LFM.
Et oui, vous écoutez LFM Radio, bienvenue et merci de nous avoir choisis. C'est Akima, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du mag CQFV. CQFV, on rappelle que ça veut dire ce que femme veut, avec chaque semaine une femme engagée au micro de LFM Radio. Et cette semaine, on part à la découverte du parcours et des ambitions d'une femme politique qui agit actuellement plus dans l'ombre que dans la lumière. Et cette femme, c'est Kenza Sakat. Bienvenue au micro de LFM.
Bonjour Akima.
C'est la première fois qu'on vous reçoit.
C'est la première fois.
Et les députés suppléants, par définition, on va en parler, ils ne sont pas en tête d'affiche, mais ils peuvent être appelés techniquement à siéger au Palais Bourbon. Ils sont discrets, souvent invisibles médiatiquement parlant durant le mandat. Ils font pourtant campagne et sont eux aussi élus. Alors comment se traduit cet engagement dans l'ombre ? Coup de projecteur aujourd'hui sur le parcours de Kenza Sakat, qui est donc, je le rappelle, députée suppléante aux côtés de Benjamin Lucas sur la 8e circonscription des Yvelines. Et pour reprendre le fil de cet engagement, une date clé, celle du verdict des urnes bien sûr, celle du 19 juin 2022, la date des élections législatives, du second tour des élections législatives, où votre tandem a réussi à s'imposer dans un territoire dominé politiquement par la droite. Victoire de Benjamin Lucas qui s'est jouée notamment dans les secteurs urbains, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Rosny-sur-Seine, et puis une mention spéciale à Limay où il a rassemblé 66% des électeurs. Peut-être une réaction à ça avant de rentrer dans votre parcours individuel et personnel de femme, Kenza. Comment vous avez interprété cette victoire à la date du 19 juin 2022 ?
Je dirais que plutôt c'était une surprise de travailler aux côtés de Benjamin. Mm-hmm. Une agréable surprise parce que du coup il venait de Hauts-de-France et il a su regrouper les gens, travailler dans l'unité. Et du coup, on a fait un très beau parcours tous les deux.
Mmh. Et est-ce que vous l'avez potentiellement aussi interprété comme un retour de force politique de gauche dans le Mantois ? Est-ce que vous l'avez analysé aussi comme ça, cette victoire ?
Réellement, oui, parce que c'était à la suite des présidentielles. Donc, il y avait une dynamique comme ça de force de gauche. Du coup, ça a été comme une évidence. Travailler ensemble, aller à la rencontre des gens, de la population et leur dire notre attachement aux valeurs de la République. Et ça a payé puisqu'on a été élus tous les deux.
Et justement, on va remonter quelques années en arrière, Kenza Sakat, puisqu'on ne vous connaît pas encore beaucoup finalement dans la presse quand on doit faire des recherches sur vous. Les plus curieux peuvent être un petit peu frustrés à ce jour puisque vous avez fait le choix de la discrétion. Qu'est-ce que vous voulez bien partager avec nos auditeurs ? Où est-ce que vous avez grandi ? Dans quel quartier ?
Eh bien, je suis mantaise. J'ai grandi dans le quartier de Radar, au Val-Fourré. Mmh. Je suis maman de deux enfants, un garçon de 19 ans et une jeune fille de 14 ans. Mmh. Avant de me plonger dans le monde politique, j'ai travaillé en tant qu'assistante commerciale dans une grande industrie du chocolat. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mes collègues. Et puis aussi la direction de cette entreprise qui m'a permis de m'engager davantage en politique.
Est-ce que ça les a surpris justement votre engagement ou quelque part vos anciens collaborateurs et collègues
parce que
se sont dit bon bah c'était évident.
C'était évident parce que je suis une militante depuis quelques années et j'en parle. J'essaye de convaincre et puis c'était comme une évidence pour eux que j'allais un jour ou l'autre franchir le pas.
Et alors, à quand remontent vos tout premiers pas sur la scène politique locale ? Votre engagement, de quelle manière s'est-il manifesté ?
Écoutez, mes premiers pas avec la France Insoumise, je dirais que c'était en 2015. J'ai vécu la plus grande déception politique avec la déchéance de nationalité. J'ai perçu comme une atteinte à la République elle-même. C'était la limite qui a été franchie. Et actuellement, d'ailleurs, on ressent toujours cette répercussion avec cette déchéance à travers la loi ignoble de l'immigration, exactement. Et récemment, l'abrogation des droits du sol à Mayotte. la situation semble s'aggraver de jour en jour.
On peut en profiter pour avoir votre regard sur la proposition de fin du droit de sol à Mayotte par Gérald Darmanin. Là aussi, pour vous, il y a quelque chose qui... une atteinte à la République, selon vous ?
Exactement. On régresse dans les droits humains et c'est le combat que je mène politiquement.
Mais on n'en est pas encore là. On peut rassurer quand même les auditeurs. Effectivement, c'est une proposition, mais pour vous, c'est un signal qui est préoccupant. Ça s'inscrit
c'est un
dans
signal,
un contexte.
Oui. Parce que en fait, concrètement, c'est le début d'une l'escalade vers l'extrême droite. Donc non.
Et alors, donc du coup, 2015, ça a été le moment, comme vous disiez. De quelle manière ça s'est traduit ? Ça veut dire que vous avez eu un engagement militant qui a été un peu plus marqué ? Comment est-ce qu'on rentre en politique concrètement ?
Alors, on rentre en politique. Déjà, il faut savoir que c'était un process. Petit à petit, je suis rentrée en politique et je me suis intéressée à la politique. Et réellement, c'était à l'écoute du discours de Jean-Luc Mélenchon en 2017. La dynamique de la France insoumise a rendu la politique accessible à tous et permettant à chacun de s'impliquer, d'être acteur républicain. Donc, c'était à ce moment-là où je me suis dit, voilà, il est temps d'agir.
Donc militante depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Hein, et pourquoi la France Insoumise plutôt qu'un autre parti ? Vous l'avez évoqué à demi-mot. C'est la personnalité de Jean-Luc Mélenchon ? Ce sont les principes ?
C'est plutôt les principes. Alors, la personnalité de Jean-Luc Mélenchon aussi. J'ai entendu dans son discours la possibilité que chacun puisse s'impliquer dans la politique. Mais il y a aussi le fait que c'est une forme d'éducation populaire, accessible à tous. C'est la proposition de la 6e République, les luttes contre toutes les formes de discrimination. Ça fait partie, c'est cohérent avec mes convictions.
Et aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez le contexte de tension qui traverse la NUPES avec, et puis même LFI, hein, disons les choses, entre les frondeurs et les fidèles de Mélenchon. Est-ce que vous arrivez à maintenir le cap ? Est-ce que vous y croyez encore autant qu'en 2015 ?
Oui, tout à fait. Moi j'y crois parce que on le voit dans les réseaux sociaux, la dynamique elle est là, donc on traverse des tempêtes, mais on est toujours là, debout, et on travaille.
Alors on reviendra évidemment dans la seconde partie de ce mag sur les valeurs que vous avez à cœur de défendre à travers votre formation politique, la France Insoumise. On comprend que vous êtes toujours aussi engagé. Mais peut-être un petit retour sur ce qui se passe au niveau local. On connaît assez peu finalement le rôle de député suppléant. Comment est-ce que vous le présenteriez à nos auditeurs ?
Eh bien, le rôle de députée suppléante, c'est un rôle qui est de travailler activement sur les problématiques locales. La diversité de cette circonscription est incroyable puisqu'elle reflète vraiment la France avec ses quartiers populaires, ses zones urbaines et puis le Vexin. Qui fait partie aussi de notre circonscription. C'est un microcosme de défis nationaux, finalement. Donc, mon engagement consiste à assister le député dans ses tâches quotidiennes liées aux affaires du territoire, à répondre aux sollicitations des citoyens et entretenir cette relation entre le citoyen avec les collectivités locales, les élus et puis les associations.
Et aujourd'hui, comment décririez-vous vos liens avec les habitants justement de la circonscription ? De quelle manière vous gardez le contact pour avoir ces capteurs, être au courant de ce qui se passe ?
Il est important en fait déjà de différencier le rôle de députée suppléante et celui de collaboratrice du député. Ça c'est très important parce que au-delà de mon rôle de députée suppléante, j'ai le rôle aussi de collaboratrice du député et là je suis très proche de tous les citoyens de la circonscription qui nous est élu ou pas. De toutes les manières, on travaille vraiment en étroite collaboration avec chacune et chacun.
Et ça implique du coup peut-être plus de contacts, alors,
oui,
finalement,
tout à
concrètement. À travers ces contacts, justement, la rédaction de LFM Radio vous a croisé dernièrement aux vœux. C'était au quartier du Val-Fouré, les vœux de Benjamin Lucas. Quel est votre diagnostic de la situation sociale des habitants ? Est-ce que vous diriez qu'elle s'est dégradée ?
Bien écoutez, la circonscription a un reflet fidèle de la diversité de la France, comme je le disais auparavant. Il englobe bien les zones rurales, les quartiers populaires, et voilà. Donc, je constate constate de nombreuses difficultés sociales, réellement, notamment sur le plan économique, tels que les problèmes liés aux factures d'électricité et l'inflation, et aussi bien sur l'éducation, avec les fermetures de classes qui sont inadmissibles et inacceptables. Il y a aussi le logement, qui est également un déficit majeur sur notre secteur. Le parc est vieillissant, il est fortement délabré dans les quartiers, et puis le manque et la pénurie de logements. Donc tout ça, et puis... Un quatrième point, c'est aussi le manque d'espace vert. Nous devons étudier vraiment ce phénomène puisque voilà, il y a le réchauffement climatique et puis bétonner, il faut vraiment s'y pencher et puis pourquoi pas mettre de la végétalisation dans les espaces comme les cours d'école ou encore ici au Val Fouré, sur la dalle du Val Fouré, pourquoi pas mettre des végétaux pour c'est un vrai espace de vie.
Actuellement, si on regarde l'actualité nationale, on est dans une période qui est marquée par plusieurs mobilisations, la mobilisation des agriculteurs, la mobilisation des enseignants. Selon vous, si on devait faire une shortlist, est-ce que vous pourriez partager avec nous votre diagnostic, les trois sujets qui, selon vous, méritent d'être traités en priorité, ceux sur lesquels vous êtes régulièrement appelés à écoute, à renfort, à sollicitation?
Là, dernièrement, c'est l'éducation. On a de grosses difficultés au niveau des lycées, comme le lycée Rostand, où Benjamin Lucas a soutenu et travaillé auprès des professeurs et des parents d'élèves. On a aussi une grosse problématique sur les collèges, comme le nouveau collège qui je pense, s'appelle l'Avenir, mais il n'y a pas vraiment de nom.
Le collège innovant ?
Le collège innovant qui n'est pas totalement innovant puisqu'il a de grosses difficultés de gestion. Et puis, il y a 600 élèves à l'intérieur. Donc, ça regroupe le collège anciennement Cézanne et Chénier. Les professeurs craquent et c'est compréhensible. Les parents d'élèves sont démunis et puis les élèves sont perdus. Ils n'ont pas le niveau quand ils arrivent au lycée. C'est un gros problème.
Selon vous, c'est le sujet majeur là actuellement, celui sur lequel il faut se pencher en priorité?
Je pense oui, l'éducation c'est un sujet majeur où on doit se réunir et travailler ensemble pour trouver des solutions.
Et on va marquer une très rapide pause musicale avant de parler davantage de votre engagement et de vos aspirations sur les semaines, les mois à venir. Un mot aussi sur les élections européennes qui arrivent à grands pas en juin prochain. Avant ça, on va marquer une rapide pause musicale sur LFM avec Georgia Smith.
LFM.
LFM.
95.5. Just one time. Is it a busy game behind? Ce que femme veut sur LFM 95.5.
Et de retour sur LFM, toujours avec moi-même, Hakima, mais aussi mon invité du jour, puisque c'est ce que femme veut. Et aujourd'hui, on parle de Kenza Sakat, députée suppléante aux côtés de Benjamin Lucas sur la 8e circonscription des Yvelines, également attachée parlementaire. Engagement politique, la France insoumise, on en a parlé un petit peu, ça va toujours, Kenza Sakat.
Toujours.
On a parlé aussi de votre lien avec les habitants du territoire. Est-ce que, quelque part, ce côté enfant du pays, vous ressentez que vous avez un soutien particulier, contrairement à Benjamin Lucas, qui peut-être, lui, a dû faire ses preuves, ne le cachons pas.
Il a adopté la circonscription, il l'a très bien
Il a adopté la circonscription ou il a été adopté?
Les deux. Je dirais les deux.
Vous diriez les deux.
Oui.
Et alors vous, quel rôle vous avez dans ce sillon-là? Parce que vous êtes une enfant du pays.
Oui, tout à fait. Et j'ai cette attache à la terre, à ma circonscription. Et c'est vrai que ça change beaucoup. C'est pour ça qu'on forme un bon duo.
Alors on va parler un peu plus de la France insoumise, effectivement. J'ai une question qui n'est pas commode. C'est la question l'avocat du diable. Donc je vais me faire l'avocat du diable, Kenza Sakat. J'espère que vous m'en voudrez pas. Ma question portera sur l'image de la France insoumise. Mais avant ça, j'ai un liner. Bon, vous avez compris, hein, c'est l'avocat du diable. La France insoumise. Alors, je suis très curieuse d'avoir votre analyse et votre avis sur le traitement médiatique et la présentation qu'on fait des couleurs et de la direction et des valeurs de ce parti-là. La France insoumise, qui est régulièrement classée à la gauche radicale, voire à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Et dans les articles, on retrouve fréquemment des qualificatifs et des mots récurrents. Il suffit de faire une petite veille, hein, je vous invite, chers auditeurs, à aller faire l'exemple chez vous. Provocation, extrême, radical, islamo-gauchisme. Comprenez-vous que votre parti soit régulièrement qualifié en ces termes, Kenza Sakat?
Déjà une petite correction, on ne fait pas partie de l'extrême gauche. Nous sommes une organisation de gauche, la France Insoumise, et vous faites probablement référence aux chaînes de médias d'information en continu, n'est-ce pas?
Notamment, oui.
Notamment, parce que.
Mais ils ne sont pas les seuls. Il faut le dire, ils ne sont pas les seuls.
Tout dépend de la presse qu'on lit ou qu'on regarde. Vous savez qu'il est facile de caricaturer ce qui exprime une colère du public. Ça, c'est une évidence. Cependant, tous ceux qui collaborent avec nous sur le terrain reconnaissent notre engagement sérieux. Il semble qu'on s'acharne toujours sur ce qui connaît le succès. Donc, celui qui remet en question, par exemple, l'établissement ou l'institution, celui qui soulève des véritables questions, diagnostiques et qui donne des vraies solutions. Donc on critique cette organisation pour ces raisons-là. Cependant, ces médias présentent un vrai et un réel danger car ils nourrissent le terrain de l'extrême droite. Ne soyons pas dupes de leur discours, ils constituent à promouvoir la haine des autres. Donc réellement, il faut faire vraiment très attention à ce qu'on regarde et ce qu'on écoute. L'information, il faut la peser. Donc, mais qui partage vraiment ses idées moi qui suis à la rencontre des gens sur le terrain, ils sont bien loin hein, ces idées-là. Ce qui préoccupe les gens, c'est le pouvoir d'achat, c'est les transports, c'est l'éducation, et puis nos luttes, elles sont nos combats sont compris sur le terrain, notamment avec le soutien de l'horreur qui se déroule à Gaza. Donc je ne me préoccupe vraiment pas de ce genre de médias.
Vous considérez que depuis une dizaine d'années, le traitement a changé, ou en tout cas depuis 2016, qu'il y a eu une évolution dans le traitement, justement, dans les éléments de langage pour décrire l'action de la France insoumise?
Oui, réellement, puisque en fait, on nous diabolise. Il y a une catégorie, en fait, ils nous mettent dans une catégorie, mais...
Est-ce que vous trouvez, par exemple, pour être clair, que vous êtes mis sur le même pied que les partis d'extrême droite, en fait, que vous avez un traitement à charge? de ce type-là.
Mais je ne peux pas comparer, c'est pas comparable.
Mmh. Mais dans la diabolisation, dans le côté mis aux extrêmes.
Non, j'ai l'impression qu'il favorise les idées de l'extrême droite, notamment avec le passage avec la loi immigration. Je trouve qu'il diabolise la gauche actuelle, la NUPES, pour mettre en valeur les idées de l'extrême droite. Voilà, c'est les médias qu'on écoute dans les infos en continu.
Pas une polarisation, mais plutôt une banalisation du Rassemblement National ou
tout
des mouvements identitaires tels que Reconquête.
En tout cas, les idées du Rassemblement National.
Les idées, et à contrario, par contre, vous avez une analyse, selon vous, c'est une impression ?
C'est pas une impression, c'est vraiment une analyse.
Entre élus, militants, c'est un petit peu ce qui ressort. Au niveau local, déjà, pour parler uniquement de ce qui se passe ici.
Oui, exactement. Mm. Mais et à côté de ça, on a les réseaux sociaux, où là, la dynamique de la France insoumise et de la NUPES sont réellement comprises, puisqu'on voit des abonnés à des chaînes comme celle de Louis Boyard ou de Benjamin Lucas, d'ailleurs. Les abonnés de ces chaînes-là sont véritablement ravis et puis ils trouvent les vraies informations.
Vous avez le sentiment d'être dans une action de résistance concrètement aujourd'hui, quand on entend vos mots?
Je dirais que résistance, c'est un slogan de la France insoumise, donc oui.
Vous revendiquez ce mot-là et cette posture-là.
Tout à fait.
La posture de la résistance. On va parler de l'engagement des femmes en politique, mais j'aimerais aussi, si vous permettez, parler de ce contexte peut-être de tension, en tout cas d'union, désunion au sein de la gauche. La NUPES portait un espoir, celui de rassembler l'ensemble des formations et des forces de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes préoccupé à l'approche des prochaines élections européennes, on le rappelle, qui se passent le 9 juin prochain en France? On sait que Benjamin Lucas avait adressé à ce micro, il y a quelques jours, un message d'union. Il avait porté ces mots: nous n'avons pas le droit, nous portons une responsabilité. Quelle est votre analyse? Est-ce que c'est possible? Parce que j'imagine que vous allez me dire que c'est souhaitable.
Tout est possible, il faut simplement le vouloir. Je dirais que j'ai vu beaucoup de soutien pour Jean-Luc Mélenchon dans nos quartiers en avril 2022. Et la NUPES a créé un vent d'espoir à cette échelle-là, l'échelle nationale et locale. Donc, en tant que militante, je suis fière de mes combats. Je suis fière aussi des insoumis, mais aussi de toute la gauche unie. Peut-être que les responsables, d'ailleurs, de Paris devraient prendre exemple sur nous, puisqu'on représente vraiment l'union et on sait travailler avec tout le monde, avec les gens. On essaye de former des listes de gauche partout, donc j'espère qu'on retrouvera l'unité qu'on a connue en 2022 aux législatives. Et puis vous me réinviterez après les élections européennes pour pouvoir vous en dire plus.
Débriefer tout ça.
Tout à fait.
Et le taux de participation aux prochaines élections européennes, c'est aussi un sujet, ça nous aura pas échappé, Kenza Sakat. La première élection européenne au suffrage universel direct, on rappelle que s'est tenue en 1979 et elle avait attiré 62% des électeurs inscrits. Mmh. Un doux rêve aujourd'hui, effectivement, quand on sait que les élections, le taux de participation est en berne. Depuis, la baisse du taux de participation est quasiment systématique à l'échelle de l'Union européenne. Mmh. Pensez-vous que ce scrutin parviendra à mobiliser davantage ?
Eh bien, écoutez, on va travailler pour nous en tant que militants de la France insoumise, les militants de gauche de la NUPES. On fera en sorte d'intéresser les gens à cette élection qui est primordiale.
Ça veut dire au niveau de la circonscription aussi?
Au niveau de la circonscription, mais au niveau national aussi.
Et je souhaitais également vous poser une question par rapport à l'engagement politique des femmes. Est-ce que vous considérez que ça a évolué, justement, cette question du respect de l'engagement des femmes?
Bien, écoutez, moi, je vais plutôt parler du local. National, ça évolue doucement, mais sûrement. Mmh. Au niveau local, c'est sous-représentation. C'est une sous-représentation de la femme sur la scène politique.
Vous parlez sur les mandats de maire
Tout à fait.
Ouais.
Oui, tout à fait. On n'a pas connu de maire femme à Mantes-la-Jolie. Donc, ça évolue.
Mais on fera en sorte que ça évolue dans le bon sens.
D'accord, donc ça reste effectivement un sujet. Alors c'est intéressant. Alors j'entends deux choses dans votre réponse. Kenza Sakat, l'émission s'appelle CQFV, donc ce que femme veut. Aspirez-vous peut-être vous-même à être candidate potentiellement aux prochaines élections, à des prochaines élections sur la scène locale.
Aujourd'hui, réellement, moi, je me consacre à mon rôle de députée suppléante et celle de collaboratrice du député.
Mais ce n'est pas exclu.
Voilà, donc pour le moment, je travaille essentiellement sur mon travail. Donc je me consacre à mon travail à 100%. Et réellement, voilà, il y a des aspirations comme chacune et chacun. On a des objectifs. Et l'objectif, c'est vraiment de faire changer les choses et de rallier le plus de monde possible à une gauche. Parce que réellement, sur notre territoire, on a connu 30 ans de droite et ça n'a pas payé. Mmh. Donc aujourd'hui, on a une aspiration à faire revenir la gauche sur le terrain et travailler dans ce sens-là.
Et par exemple, à la municipalité de Mantes-la-Jolie, vous pensez que c'est possible dans une ville considérée comme un fief de droite ?
Bien, on travaille sur un vrai programme. Un programme, en l'occurrence, pour les législatives, ça a été le programme de la NUPES et c'est un programme d'union de gauche. Donc forcément, on va connaître la même chose pour les municipales.
Mmh. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change, par exemple, à l'image d'une ville comme Mantes spécifiquement, vous qui êtes une enfant de Mantes-la-Jolie, du quartier Radar, vous le disiez, est-ce qu'il y a certaines préoccupations ? On y voit parfois plus clair quand c'est au niveau de sa ville. Il y a des sujets sur lesquels on vous interpelle directement encore aujourd'hui.
Oui, toujours. Notamment, j'ai été au
alors,
plus
on a parlé
près
de Rostand, ouais, tout à l'heure. Est-ce, oui, qu'il y a d'autres
tout
sujets?
Tout à fait. J'ai été au plus près des locataires de la rue Mozart et de la rue Braza à Terre et Famille. Oui, je suis interpellée par les habitants de Mantes-la-Jolie. Je suis aussi interpellée par les habitants de Gassicourt, qui est un petit peu délaissé du reste de la ville. D'ailleurs, on constate bien qu'il y a le centre-ville, Gassicourt et le Val-Fauré. Mon aspiration, mon espoir, c'est qu'il n'existe qu'une seule ville, qu'une seule Mantes-la-Jolie.
Vous trouvez que le contraste s'est accentué ces dernières années ?
Je pense.
Parce qu'il a toujours existé concrètement. Il y a toujours eu un centre-ville et des quartiers politiques de la ville.
Oui, tout à fait. Mais là, le contraste, est flagrant. Donc, on aspire à mieux.
En termes d'urbanisme, en termes de vie associative, de vie culturelle, c'est ce que vous...
Oui, qu'il y a un lien entre les deux.
Et quelle est votre plus belle rencontre en tant que collaboratrice ? Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes amenée à faire beaucoup de rencontres. Est-ce qu'il y a une rencontre depuis votre investissement sur la scène politique locale qui vous a peut-être plus touchée qu'une autre ?
Oh, les rencontres, j'en fais tous les jours et je ne peux pas choisir la rencontre la plus importante puisque chacun m'amène beaucoup d'expériences, de réflexion. Donc je ne pourrais pas choisir une des rencontres parmi toutes celles que j'ai eues. J'ai eu de très belles rencontres, que ce soit dans le Vexin ou que ce soit au Val-Fauré. Je ne pourrais pas choisir concrètement, je ne peux pas.
Et peut-être ma dernière question, entre députée suppléante, on avait commencé par ça, par principe, c'est induit de ne pas être tête d'affiche. Est-ce que vous seriez prête à vous mettre en avant ? C'était un peu le sens de ma question sur l'investissement des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez prête ? Potentiellement, même si on a bien compris que ce n'était pas ce qui était prioritaire aujourd'hui.
Oui, mais je trouve que d'ailleurs, le fait que je sois députée suppléante, mais aussi collaboratrice, ça change beaucoup. C'est déjà un grand pas. Ça n'existait pas auparavant sur le Mantois. Donc, ma place, elle est là. Mon travail est apprécié.
Ça va être le moment de la fin de l'émission. Déjà, on arrive, l'émission passe très vite. On est déjà à 30 minutes. Kenza Sakat, vous avez une minute pour adresser vos dédicaces, messages peut-être pour 2024. On a reçu Benjamin Lucas il y a quelques jours. C'est à votre tour, Kenza Sakat.
Bien, écoutez, aujourd'hui, je me consacre à mon travail
pour aider les habitants de notre circonscription et je serai à chaque fois que nécessaire à défendre chacune et chacun. Je veux être le lien encore avec le citoyen, collaborer avec tout le monde, discuter, rester à l'écoute de chaque citoyenne et citoyen. Je dirais aussi qu'il faudrait changer l'image de là, on est à Mantes-la-Jolie, donc en plein dans le Val-Fouré. Je voudrais changer ces problèmes tout le temps de délinquance, de parler de délinquance ou d'insécurité et mettre en avant des initiatives portées par des personnes formidables que j'ai eu la chance de rencontrer chaque jour. D'ailleurs, j'en rencontre, donc je m'engage toujours à rester au plus proche des gens, voilà, pour 2024 et pour l'avenir d'ailleurs, et puis à soutenir tout le monde dans les moments difficiles et ou dans les moments de bonheur, et mettre en valeur surtout la réussite de chacune et chacun de notre circonscription.
Eh bien, merci à vous, Kenza Sakat, pour ce premier entretien au micro de LFM Radio. On a dû insister pour vous avoir, on peut le dire à nos auditeurs. En tout cas, l'interview sera totalement disponible sur notre site internet, le www.lfm-radio.com, ce qui vous permettra de faire davantage connaissance avec cet élu du territoire, Kenza Sakat. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ce que Femme veut, toujours avec une femme engagée. La suite du programme sur LFM Radio, eh bien, c'est la playlist du 95.5 et également Pauline, que vous retrouvez de 16h30 à 19h30 en direct pour l'émission Level Up. Merci de nous avoir choisis et à la semaine prochaine dans CQFV.
Ce que Femme veut, business, société, ambition, relation,
l'émission qui vous révèle ce que les femmes veulent.
Portrait, coup de cœur et coup de gueule.
Ce que femme veut, tous les mardis à 11h sur LFM.